Alors du coup, je pense que c'est parti de l'idée de réunir des personnes queer sur le territoire et LGBT. Tout a commencé, je pense, par un apéro queer qu'on avait organisé avec des amis pour réunir un peu des personnes queer. Et peut-être aussi une rencontre avec Jérémy de la Quincaillerie qui, depuis longtemps, avait envie de monter ce type d'association sur le territoire. Et voilà, nous sommes réunis à plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui viennent un peu d'autres départements, d'autres régions, mais aussi des Creusoises et des Creusois.
Mais ça, il y a un premier rendez-vous à la Quincaillerie, du coup. C'était en octobre. Et au fur et à mesure, d'autres personnes se sont rejoint le collectif. Et on a créé l'association, là, début 2021, avec 2-3 rendez-vous en moyenne par mois.
Et alors, c'est quoi vos objectifs, vos envies en montant cette structure? C'est quoi un peu votre ligne? Si c'est justement sur la sensibilisation, rassembler...
Alors du coup, nous, on n'est pas du tout une association d'accompagnement, par exemple, des personnes LGBT. On va plus organiser des actions conviviales sur le territoire, festives quand on le pourra, on espère, bientôt. Artistiques également, par exemple, promouvoir des artistes queer, des artistes LGBT de Creuse. Également, donc cette opération arc-en-ciel qu'on a lancée qui vise à visibiliser les communautés LGBT. Donc je crois que c'est le mot, vraiment, la convivialité et le fait de visibiliser ces communautés.
Autour de ça, il y a aussi visibiliser aussi les professionnels qui peuvent être comme on dit friendly, mais en tout cas qui sont comment dire conscient, en tout cas sensibilisé, formé. C'est ça, aussi visibilisé dans les médiathèques, des livres LGBT qui ont été écrits aussi par des personnes LGBTQIA+. Et puis aussi peut-être plus largement des actions en collège, lycée. Et puis nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment d'être un point de convivialité, de joie, festif, et d'accueil aussi pour des personnes qui ont envie d'être dans un environnement cool.
Ouais, je pense qu'un des fils rouges, c'est d'avoir envie de créer des points d'ancrage sur un territoire où il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir seules, des personnes de la communauté LGBTQIA+, ou pas d'ailleurs, mais qui peuvent se sentir un peu isolées. Et donc l'idée, c'est de créer des points d'ancrage autour de la culture et de la convivialité.
Et est-ce que vous visez en particulier des espaces institutionnels ou plus largement?
Je pense que c'est un peu, c'est assez large, je dirais. Il y a autant, j'ai l'impression que c'est venu vert aussi parce que, alors je sais pas, il y a eu un truc avec la création du collectif, il y a eu un peu un double truc, c'est-à-dire que c'est pas que nous qui sommes allés vers, j'ai l'impression, vers, il y a l'appel aux mairies, mais il y a aussi d'autres institutions qui ont pu aussi se dire « Ah tiens, super, il y a ça qui existe, donc ce serait cool aussi que nous on accompagne, ces questions soient aussi plus larges et plus ouvertes sur le territoire. » Et en même temps, nous, de notre côté, moi personnellement, je m'y attendais moins peut-être. Et c'est assez cool que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de l'institutionnel et qu'en même temps, nous, de notre côté, on puisse aussi créer de l'alternatif via des soirées ou des temps de rencontre, des débats, etc.
On essaye aussi de rencontrer, là récemment on a rencontré SOS Homophobie, qui est sur une ligne assez différente de nous, mais ou le planning familial de Guéret, avec qui on va aussi collaborer et créer des ponts associatifs.
Et qu'est-ce qui fait, alors c'est une question peut-être un peu plus personnelle, mais qu'est-ce qui fait que dans vos trajectoires respectives, on en vient à prendre conscience de politiser une identité de genre?
Moi, je pense que personnellement, je pense que c'était plus un manque pendant l'adolescence et même le début de l'âge adulte. Un manque de points de repère. Moi, j'ai grandi du coup entre Bordeaux et aussi un peu la campagne environnante. Et oui, c'est vraiment ce manque de repères et d'ouverture des possibles et du discours. Et c'est comment, pour moi, c'est pour ça que rendre visible La question de la sexualité, la question du genre, c'est aussi dire on est là et si tu t'identifies à telle culture ou que tu as envie de poser des questions ou de rencontrer quelqu'un qui s'y connaît, c'est possible et en fait y a un point de repère. Qui moi je pense m'a plus manqué pendant mon adolescence.
Mais je dirais que du coup je viens plutôt des milieux féministes. Là j'étais beaucoup à Paris, même si j'ai grandi dans la Creuse, j'étais beaucoup à Paris ces dernières années. Et du coup, fréquenter les milieux féministes aussi, notamment par exemple la Mutinerie qui est un bar lesbien, enfin, ou beaucoup de milieux queer, et d'être sensibilisée à certaines questions. Et pour moi, l'orientation comme ça, je ne sais pas si on peut dire que l'orientation sexuelle peut être politique, mais forcément, en fait, quand on se fait agresser dans la rue parce qu'on est avec une femme ou qu'on reçoit des discriminations en pleine gueule, parce qu'on est, enfin, forcément, en fait, tout ça devient politique parce que cette violence-là est visible, elle se voit. Et voilà, j'avais l'impression qu'à Paris, tous ces questionnements-là étaient un peu abordés, étaient réfléchis. Et en campagne, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui sont face à cette violence-là. Et du coup, de voir qu'il n'y a rien qui est proposé, je trouve que c'est... Je pense, là, dans mon parcours, je me suis dit, ah, mais en Creuse, là où j'ai grandi, il n'y a rien, en fait, pour ces personnes-là. Et on en fait partie. Et j'ai plein de potes qui sont... Voilà.
Ouvrir des espaces. Enfin, c'était aussi vraiment ouvrir des espaces qui n'existent quasiment pas. En fait, même à Guéret, je vois pas de bar ou de lieu festif ou pas qui soit LGBT, quoi.
Identifié comme tel, en tout cas.
Oui.
Vraiment, je suis vraiment à cheval entre vos deux témoignages, Léna et Vincent. Effectivement, je pense qu'à la campagne, la violence, elle passe surtout par le silence. Le fait que ça soit pas une problématique abordée jamais, ni par les médias, ni par les politiques, ni jusque-là tellement par les associations. Et moi aussi, effectivement, à un moment d'adolescence ou de l'adolescence, c'est la culture qui m'a... Enfin, de découvrir la littérature gay, le cinéma gay, qui m'ont permis aussi de me rencontrer, de me reconnaître, de m'accepter en tant que jeune homme homosexuel. Et je me dis que ça doit être très, très difficile en milieu rural. Bah, ça allait déjà en ville, mais en milieu rural en plus, de n'avoir pas accès justement à ces repères culturels et encore moins à des personnes réelles qu'on peut aborder, à qui on peut partager ces questionnements. Alors ça peut sans doute se faire un petit peu dans le milieu scolaire, mais je pense qu'il y a encore un besoin d'accompagnement et de réflexion. Donc, c'est aussi quelque chose vers lequel on peut essayer de tendre, en tout cas par des partenariats, comme disait Léna, avec le planning familial ou d'autres acteurs, essayer de voir comment est-ce qu'on peut... proposer aux plus ou moins jeunes des espaces de discussion qui soient sécurisés, sécurisants.
Et l'acronyme LGBTQIA+, ça regroupe plusieurs idées, c'est assez riche. Vous, comment vous, enfin en tout cas votre l'association, comment se situe là-dedans?
Alors, bon, déjà le choix du nom, on a quand même fait au moins 4 réunions pour choisir ce nom, je tiens à le préciser. Et en fait, on s'est dit que c'était le plus simple possible, le plus, pour un adolescent qui cherche un truc sur ces questions-là, voilà, il trouve LGBTQIA+.
Le plus inclusif aussi,
et voilà,
en termes de lettres.
C'est ça, en fait, on a choisi le plus inclusif en termes de lettres. Après, il me semble qu'il y en a d'autres qui existent.
Enfin, c'est à peu près, puis même au sein du collectif, c'est clairement un ensemble, j'avais marre de dire problématique, donc je préfère dire de questions et d'ouverture, et qui sont plutôt représentées au sein du collectif, et du coup ça permet aussi d'en discuter et de, en fait, pas que LGBT, parce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres personnes qui sont pas forcément, qui se revendiquent pas comme une étiquette L ou comme une étiquette B ou comme une étiquette G. Enfin, d'où le plus, d'où le Q aussi parce que c'est queer. Il y a des personnes qui se revendiquent politiquement queer qui peuvent être. Enfin, ça fait débat au sein des militants, mais qui peuvent être aussi parfois qu'avec des hommes ou qu'avec des femmes. Enfin, qui pourraient être sous l'étiquette hétéro, mais qui se disent. Ces personnes se disent queer, donc c'est vraiment très large et voilà, nous c'est plutôt en fait le collectif, c'est toutes ces lettres, c'est vraiment pour en fait inclure au maximum des personnes qui sont en questionnement, qui ont envie d'en savoir plus ou qui en savent, enfin qui sont déjà dans ces questions et qui, enfin même pas ces questions, qui le vivent et qui ont envie d'être un endroit où ils peuvent en parler.
Ouais, puis c'est aussi l'occasion de parler de plein d'autres sujets à travers ça. C'est au-delà des lettres et des acronymes, on parle aussi de culture, mais aussi de parentalité, d'éducation, d'accès à la santé. Enfin, c'est tout plein de thématiques du quotidien en fait qu'on aborde aussi au sein de ce collectif, de cette association. Ouais.
Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une opération en particulier, l'opération Arc-en-Ciel. Parlez-nous-en un peu. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où?
Alors ça vient d'où? Ça vient d'un peu nulle part, mais ça vient d'une inspiration en Suisse, en fait. Il y a une association en Suisse qui a fait une opération similaire en 2017, je crois, dans le canton de Vaud, où ils ont proposé aux 8 communautés de communes d'afficher le drapeau arc-en-ciel sur leur fronton pour la journée du 17 mai. Et donc voilà, en creusant un petit peu, on est tombé là-dessus et on s'est dit que ça serait intéressant de le faire en France. Et en l'occurrence, a priori, ça n'a jamais été fait en France, donc c'est une première en Creuse. On est innovant sur plein de trucs. Et donc l'idée était, ça nous plaisait l'objectif de visibiliser ces questions LGBT dans un territoire rural et d'impliquer les mairies qui sont, la maison du peuple, le premier échelon d'implication citoyenne et politique. Et d'en profiter pour faire une petite prise de température, un petit baromètre de la situation de l'amicalité LGBT, on va dire, pour pas parler de friendliness, mais de la tolérance, acceptance, c'est pas de bon mot vraiment, mais essayer de savoir à quel degré est-ce qu'on pouvait aujourd'hui revendiquer, accepter, assumer le fait d'être un membre de la communauté LGBT en Creuse.
Et alors, quelles mairies ont répondu au jour d'aujourd'hui?
Pour l'instant, on a eu 33 retours, dont 21 retours positifs et 12 retours négatifs.
Ok, il y a eu des retours négatifs aussi quand même.
Ouais, il y en a eu, donc oui, tout à fait. Mais on pourrait faire un retour négatif, il n'y a pas de retour. Ça montre qu'au moins la question a été posée, enfin s'est posée en conseil municipal pour beaucoup. Et donc, c'était un peu l'objectif aussi, c'était que les questions se posent au conseil municipal et qu'après, chaque conseiller et conseillère potentiellement ramène le sujet chez eux, chez elles. On parle à table, on parle en famille et que le sujet en devienne un, en fait. Que des questions soient posées, que après des réponses soient trouvées ou pas, c'est encore autre chose, ça sera un peu sur un deuxième temps. Donc, pour l'instant, on a donc 21 communes qui ont accepté. On en attend encore quelques-unes qui ont des conseils municipaux pendant le mois de mars. Donc on espère monter à une trentaine. Mais rien que déjà avec les 21 qu'on a à ce jour, on couvre quand même 27% de la population creusoise, parce que la majorité des grandes villes ont répondu positivement, ce qui est quand même un bon signe. On couvre plus d'un quart de la population aujourd'hui.
Pour le moment, c'est un bon score. Et vous avez eu des échos déjà de cette opération? Est-ce que ça a justement un peu ouvert des débats, des discussions déjà?
Oui, j'ai l'impression, dans pas mal de conseils municipaux où on connaît du monde qui pouvait penser que ça passerait comme une lettre à la poste et en fait pas du tout, ou en fait un peu moins, ou en tout cas comme un colis dans une petite boîte à lettres, parce que c'était pas si évident que ça apparemment quand même. Donc oui, ça est venu challenger, défier un petit peu des idées reçues dans les deux sens.
Par rapport aux discussions avec les personnes qu'on peut côtoyer, que ce soit au marché ou en allant au café, bar, enfin café emporté, c'est aussi, je trouve que c'est chouette parce qu'il y a eu des articles, ça a pu être relayé à la radio et du coup ça crée aussi des micro-débats qui sont assez belles, en tout cas moi je trouve à observer, parce que c'est toujours des conversations qui peuvent être compliquées quand on connaît pas les personnes, mais là ça crée quelque chose de un ailleurs et en même temps une ouverture pour qu'on en parle, alors que peut-être que avec des personnes inconnues on serait pas forcément à amener le sujet, parce que voilà.
Puis oui, j'ai l'impression, moi, dans mes amis, que il y a une amie qui va me dire: ah, ma mère a entendu parler de votre opération arc-en-ciel, et qui donne un peu, moi je pense que c'est bien parce que ça fait parler effectivement dans les conseils municipaux, ça atteint un peu des sphères ou des, en tout cas ça vient gratter à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller gratter finalement. Et quand même, on a pas mal d'échos. Et ce qui est très surprenant, c'est que il y a certaines, finalement, mairies qui répondent qui répondent assez vite positivement, d'autres pas. Enfin, on peut quand même évaluer. Il y a une multitude de réponses et d'avis différents. Et voilà.
Et donc là, maintenant, je pense que la prochaine étape, ça va être, on se donne encore une semaine pour relancer les plus petites communes qu'on a un peu moins harcelées que les grosses et les moyennes, pour s'assurer que tout le monde a bien eu l'information et a bien eu son invitation à participer. Je pense pas qu'on arrivera à 256 réponses, donc toutes les communes, mais si on pouvait monter un peu plus que 33, ça serait quand même pas mal. Et l'idée, ça serait que pour le 17 mai peut-être, ou en tout cas autour de cette date-là, on invite toutes les communes qui ont participé à un événement, on ne sait pas encore trop sous quelle forme, mais qu'on les réunisse pour discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut transformer l'essai concrètement, et comment est-ce qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur les territoires qui ont participé. Et ensuite, jusqu'au 17 mai 2022, d'aller voir les autres communes, celles qui ont dit non, pour initier le débat. C'était aussi vraiment l'objectif de l'opération, c'était de lancer la balle, quoi, de voir ce qui se passerait après.
Pour le 17 mai, en tout cas, nous, on aimerait vraiment faire un événement assez festif, peut-être une manifestation à voir où, quand, quoi, comment, mais si des personnes sont motivées aussi pour cette organisation, peu importe sous quelle lettre et peu importe s'il y a une lettre, enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter aussi parce que ça peut être un bel événement. Le 17 mai, si ça se trouve, on sera plus en couvre-feu ni quoi que ce soit.